Barbara Cassin, vous publiez L'Odyssée au Louvre, un roman graphique chez Flammarion et coédité avec Le Louvre et même La chaire du Louvre. Il s'agit pour vous d'un livre, du livre des livres peut-être, auquel vous avez consacré une part de votre travail et de vos passions. Pourquoi faut-il lire L'Odyssée encore aujourd'hui alors que les malheurs du monde s'amoncellent ?
Oui. C'est la question que je me suis posée à moi-même lorsque j'ai présenté ce livre à Galatasaray, c'est-à-dire en Turquie, juste avant les événements. Et je disais aux étudiants et aux mômes qui étaient là, puisqu'il y a aussi les lycéens, mais enfin, posez-moi cette question que j'essaye d'y répondre. Et en fait...
Moi, je fais tout ce que vous dites.
Voilà. Merci, monsieur le lycéen. Et donc, je me suis dit que en écoutant Trump, en écoutant Poutine... en voyant ce qui se passe à Gaza, en voyant ce qui se passe en Ukraine, il y avait la réponse que moi je pouvais fournir, c'était la culture. Et du coup, je suis en train de réfléchir à la guerre des mots, c'est-à-dire, on a parlé tout à l'heure de Trump qui, finalement, refuse un certain nombre de mots, du genre femme, etc., ou LGBT, ou tout ce que vous voudrez. Et il imagine peut-être qu'en refusant ces mots, les choses vont disparaître. Poutine, quand il dit « non, non, il n'y a pas de guerre, il y a juste une opération spéciale militaire hein, en Ukraine », il pense peut-être que l'absence du mot « guerre » va faire disparaître la chose. Bon, donc je réfléchis sur la force des mots qu'ils utilisent ou qu'ils n'utilisent pas.
Eh bien écoutez, on va les entendre tour à tour, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Tout d'abord, Vladimir Poutine sur ce qu'il appelle l'opération spéciale. Le peuple des républiques populaires du Donbass a demandé de l'aide à la Russie. J'ai décidé de mener une opération militaire spéciale. Elle vise à protéger tous ceux qui ont été victimes d'intimidation et soumis à un génocide par le régime de Kiev pendant 8 ans. Pour cela, nous ferons tout pour dénazifier et démilitariser l'Ukraine. Merci pour cette traduction du russe.
Oui.
Qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce qui, justement, attire la philosophe et la philologue que vous êtes ?
Eh bien... Qu'est-ce que c'est que cette... Alors, ce qui m'attire comme philosophe, si vous voulez, c'est la réinvention de l'histoire, c'est l'effet alternatif. Les fake news, mais surtout la réinvention de l'histoire. Le nazi, c'est l'autre. Bon. Mais je pense que là, on entend le fait, l'invisibilisation par l'absence du mot. Hein. Il n'y a plus de guerre, il n'y a pas de guerre, il y a une opération militaire spéciale. Navalny, il n'a jamais existé. Hein. Poutine a tout fait pour ne jamais prononcer son nom. Bon, voilà. Trump fait une liste de mots à ne pas employer, sinon on vous sucre les. De toute manière, on vous les sucre. Hein,
les subventions.
Mais ce que je crois, c'est qu'il s'agit vraiment de culture là.
Justement, lorsque l'on a travaillé sur la traduction et la retraduction de l'Odyssée, puisque ce qui est prodigieux, c'est qu'il y a une multitude, j'en ai une chez moi, j'ai la dernière traduction, mais il y a eu une multitude de traductions de l'Odyssée. Quand vous naviguez entre ces traductions, puisque vous avez appris à traduire le grec avec votre papa, c'est avec lui que vous vous amusiez à faire des versions.
Oui, à faire croire que justement j'avais jamais lu de traduction et que donc j'inventais tout.
Là, vous trichiez ?
Ah, toujours.
Oui. Bon, bah alors ne trichez pas avec moi, et dans ce cas-là, dites-moi, quand vous naviguez entre ces différentes traductions, Barbara Cassin, quel effet cela vous donne entre ces différentes retranscriptions de l'Odyssée ?
Ça n'a de sens que parce qu'il y a le grec. Je veux dire que jamais, je ne m'intéresse jamais aux traductions comme ça. Je m'intéresse aux traductions par rapport au texte original. Donc, je travaille toujours avec le grec d'abord. Et l'éventail des traductions est essentiel pour moi, pour comprendre à la fois comment on a interprété, et puis ce que ça veut dire.
On a dit qu'on allait débuter par Calypso, parce que d'abord tout débute avec Calypso, et parce qu'à mon avis, ce mythe retranscrit bien, ou l'épisode d'Ulysse avec Calypso retranscrit bien finalement les dilemmes de l'homme, ancien et moderne. Barbara, je vous propose de nous rappeler ce qui arrive à Ulysse lorsqu'il arrive dans l'île de Calypso.
Enfin, il est à Calypso. En fait, ça s'ouvre, l'Odyssée s'ouvre, et Ulysse est là, dans l'île de Calypso, depuis plus de 7 ans. Donc, comme dit très joliment Bérard, qui est l'un des bons traducteurs, l'un des meilleurs traducteurs, à mon avis, de l'Odyssée, il dit « Il ne goûtait plus les plaisirs de la nymphe ». Bon, donc il en a marre, en fait, et il veut rentrer. Et il regarde au large, il regarde le large, et il pleure. Il fait fondre son aïone, c'est-à-dire son âge, sa vie.
Oui, il faut dire que depuis 7 ans, Barbara Cassin, Ulysse est soumis à un régime sévère, puisque donc il est entre les mains de la déesse Calypso. Cette déesse est une femme merveilleuse.
La nymphe, oui.
Extrêmement attirante.
Aux belles boucles.
Avec laquelle il a des moments privilégiés. Et puis, effectivement, il y a les petites nymphettes autour d'eux, oui, qui leur apportent les meilleures nourritures. Alors, c'est pas de l'ambroisie, c'est pas la nourriture des dieux, mais enfin, oui, il ressemble. Et donc, il a une vie merveilleuse, mmh, mais il lui manque une chose.
Il lui manque, eh bien, il lui manque son île, et il lui manque le retour. Donc, parmi ça, il y a Pénélope. Et en fait, Calypso propose à Ulysse de l'épouser, de rester avec lui, avec elle, et donc d'être immortel comme elle.
Et lui, immortel et de rester éternellement jeune, hein, parce que oui, on ne va pas lui. Ah oui, parce que oui, il y a eu des épisodes. Il y a eu des épisodes. Il y a eu des épisodes dans la mythologie grecque où on était immortel, mais on vieillissait, ce qui provoque si on est immortellement kakoshim.
Non, non, immortel pas gâteux et immortel beau comme il est, bon, et séduisant. Et donc il refuse en disant que non, il préfère, toute moche qu'elle est maintenant, parce qu'elle a dû vieillir, Pénélope. Et il préfère mourir, pouvoir mourir, être mortel. Il y a un très beau mot grec pour dire mortel, c'est phos. Phos, c'est un mot qui est lié étymologiquement, d'une part à la lumière. La lumière se dit phos aussi, mais pas avec le même accent. Enfin, c'est de ça dont il s'agit. Et il est lié aussi à la parole, phémiba. Bon. Donc, fausse, c'est voir la lumière et parler. Et les dieux, s'ils sont jaloux de quelque chose, c'est de la mortalité des hommes. C'est la seule chose qu'ils ne connaissent pas.
Et je pense que c'est l'épisode fondateur de la philosophie moderne, tout simplement parce que, finalement, l'alternative, le dilemme d'Ulysse est assez simple. Ou bien il va vivre comme un dieu, il va cesser d'être un homme, ou bien il va réincorporer l'ordre du cosmos, il ne va pas le troubler, alors même que cet ordre est complètement troublé, puisqu'il y a la guerre de Troie, d'abord, et puis cet ordre est troublé par le fait qu'il est séparé d'Ithaque, son île, il n'est plus avec Pénélope.
Oui, enfin, ça fait partie du cosmos, tout ça. Le trouble fait partie du cosmos.
C'est pas bien grave. Mais lui a la possibilité d'aggraver encore ce trouble.
Enfin, ça serait en fait, s'il restait chez Calypso, que ça troublerait vraiment le cosmos. Parce que qu'un homme devienne immortel, bon, ça arrive, hein, il y en a plein à qui c'est arrivé, mais quand même, c'est pas normal. Et donc, lui préfère repartir sur un radeau. Et il y a une image absolument, enfin il y a une image de vase absolument sublime où on voit Ulysse avec un pied sur une amphore et l'autre pied sur une autre amphore dans une espèce de radeau constitué par ces deux amphores qui n'a pas pu ne pas, puisqu'on parlait de Lampedusa au début de cette émission, qui n'a pas pu ne pas me faire penser à ce qui arrive aux migrants quand ils vont sur des machins plein d'air. Bon, et voilà. Et donc, il préfère repartir ainsi, donc risquer sa vie, mais être, accomplir son destin d'homme. Et la première qualité d'un homme, c'est d'être mortel, justement.
Ce qui est une distinction donc inouïe entre les dieux et l'homme, probablement la principale distinction, la principale barrière apportée par la pensée grecque, est la possibilité de dire « on peut être immortel et avoir une vie bonne », ce qui n'est pas évident.
C'est évident pour tous les philosophes grecs. Hein. Bien vivre, avoir une vie bonne, c'est l'idéal de tous les philosophes grecs et ils vous expliquent tous comment il faut faire. Aristote le premier, très très bien. Donc il faut pratiquer la juste mesure.
La juste mesure, c'est donc cet ordre du cosmos qu'il faut respecter et c'est cela en fait qui va gouverner le monde jusqu'à, disons, la philosophie des Lumières, jusqu'à Kant. C'est à partir du moment où Kant arrive où on décide donc de bouleverser cet ordre et d'abandonner ce qu'on peut appeler le cosmos éthique grec, Barbara Cassin.
Oui, on peut dire tout à fait ça. C'est-à-dire que ce qui se passe avec Kant, c'est que la loi morale en moi, et le ciel étoilé au-dessus de moi, mais la loi morale en moi vient concurrencer le ciel étoilé, en fait. Et la loi morale en moi, ça veut dire obéir à, finalement, une seule phrase, qui est que la maxime de ton action, ce qui te fait agir, puisse être érigée en loi universelle. Autrement dit, c'est pour le coup le sujet moral qui constitue le monde moral. Et non pas le monde qui fait d'un sujet un sujet, disons, éthique.
Et alors cette langue de l'Odyssée, puisque cette langue de l'Odyssée, elle a inspiré l'ensemble des philosophes, elle a l'ensemble des philosophes, elle a inspiré des philosophes aussi divers qu'Heidegger, un poète comme René Char. Bah tiens, d'ailleurs, on va entendre la voix de René Char.
Les quelques impressions anciennes que je vais dire sont apparus souvent à l'intersection d'une lecture endurante, selon le mot de Jean Beaufray, des grands textes de Martin Heidegger et de l'exercice quotidien d'une vie d'homme que nous sommes nombreux à avoir tenté d'égaliser sans la dépeindre par le haut et par le bas. Elles sont un hommage de respect, de reconnaissance et d'affection à Martin Heidegger. La perspective d'un paradis hilar détruit l'homme. Toute l'aventure humaine contredit ceci, mais pour nous stimuler et non nous accabler. Comment délivrer la poésie de ses oppresseurs? La poésie qui est clarté énigmatique et hâte d'accourir, en les découvrant, les annule.
La perspective d'un paradis hilar détruit l'homme, Barbara Cassin.
Oui, c'est très beau. Moi, j'aimerais lire un autre bout de René Char, si vous voulez bien, qui, moi, me guide toujours. Il a écrit ça sous un Georges Braque, qu'il m'a d'ailleurs donné. Pas l'original, hein, qui est... Un oiseau bleu en train de pousser un nuage bleu, et il m'a dit, en me le donnant, c'est Sisyphe, oiseau, poussant son rocher nuage. Bon, et voilà ce qu'il y a écrit dessous. Nous ne jalousons pas les dieux, nous ne les servons pas, ne les craignons pas, mais au péril de notre vie, nous attestons leur existence multiple, et nous nous émouvons d'être de leur élevage aventureux lorsque cesse leur souvenir. Moi, j'adore cette longue phrase.
Et oui, parce que le souvenir des dieux...
Je peux vous expliquer pourquoi. C'est parce que le monde des dieux double le monde des hommes, c'est ça être païen. Et ça veut dire une chose très simple, ça veut dire que quand vous voyez quelqu'un arriver dans l'Odyssée, par exemple, quand vous voyez quelqu'un arriver dans un monde païen, vous pouvez imaginer que c'est un dieu. Et donc, ça change tout.
On va continuer à en parler dans une vingtaine de minutes avec vous, Barbara Cassin. Ce livre que vous publiez, L'Odyssée au Louvre, aux éditions Flammarion, c'est une coédition entre le Louvre et Flammarion. Et vous serez rejoint par Olivier Rollin dans quelques instants, 8h sur France Culture. C'est l'histoire d'un homme qui veut revoir son île, finalement, c'est ça, Barbara Cassin.
Son île, sa femme, les siens. Et puis, il veut aussi... inventer, il a, enfin, j'écoutais ce qu'on dit de Trump.
Ce que Jean Lemary disait de Trump.
Ulysse, c'est un grave menteur. Il n'arrête pas de mentir, tout le temps. Bon. Il a 1000 tours dans son sac. C'est polutropos. Bon. Et puis, ce qu'il veut et ce qu'il pratique, c'est un discours qui gagne. Bon. Et avec tout ça, la vraie différence, profonde différence, c'est que Trump et lui ne veulent pas la même chose. Trump, il veut que lui et son fric. Ulysse, il veut Ithaque, son peuple, sa femme et, d'une certaine manière, la Grèce.
Je réfléchissais d'ailleurs en écoutant Jean Lemary. Je crois qu'à aucun moment dans l'Odyssée, il n'est question d'argent.
Si, il est question de gain. C'est pas tout à fait pareil. Il est question de, par exemple, Ulysse, on lui donne des choses et il fait très attention à ce qu'on lui donne. Et puis ça part. Et puis
c'est
très important.
Oui, c'est parce que par exemple sur certaines îles, il a de merveilleuses choses à manger. Il bénéficie de conditions exceptionnelles. Donc ça, c'est important pour lui.
Oui.
D'ailleurs, ça n'est pas suffisant pour qu'il refuse de retourner à Ithaque.
Non, bien sûr. Mais ce qu'on lui, par exemple, les Phéaciens lui font des cadeaux. Eh bien, quand il débarque, quand les Phéaciens le déposent endormi sur les rivages d'Ithaque, l'une des premières choses qu'ils regardent, c'est où sont ces cadeaux ? Est-ce qu'ils sont toujours là ? Est-ce qu'on me les a volés ? C'est très important.
Vous avez décidé de convier Olivier Rollin à cette carte blanche. Présentez-nous Olivier Rollin et dites-nous pourquoi
vous
l'avez invité.
Non, je ne peux pas le présenter.
Il veut qu'on dise qu'il est écrivain.
Il n'est pas présentable, vous voyez bien. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'on a beaucoup joué ensemble autour d'Ulysse et de l'Odyssée à Chaminadour, qu'il organisait aux entretiens de Chaminadour, qu'il organisait autour de l'Odyssée.
Et c'est comme ça. Oui.
Et autour d'Homère.
Parce que moi, je suis plutôt un.
Oui, lui, il est plutôt iliadique.
Voilà, je suis plutôt iliadique, oui.
Disons autour d'Homère. Je
n'aime pas beaucoup Ulysse, à vrai dire.
Pourquoi ?
Ça ne m'étonne pas de toi.
Mais d'une part, parce que c'est un petit malin, quoi. Enfin, c'est un très malin, c'est un petit malin. Mais justement, moi, j'étais frappé par la première chose qu'il fait, en effet, c'est mes cadeaux, là. Où est-ce qu'ils sont, les choses que m'ont donné les Phéaciens, etc. Il faut bien les planquer avant de... Bon. Et donc, il perd pas le nord, quoi, si je puis dire, Ulysse. Et puis d'autre part, je suis influencé par d'autres commères. Par exemple, dans Euripide, il est absolument infect. Il est absolument infect. C'est-à-dire, c'est lui qui exige qu'on jette Astyanax par le rempart, du haut du rempart. C'est lui qui exige qu'on égorge la fille de Priam, Polyxène. Enfin bon, c'est vraiment un assassin, quoi.
C'est un homme cruel. Et on a parlé donc d'Ulysse dans l'île de Calypso. Les sirènes. C'est important. Quelques mots sur les sirènes, Barbara Cassin.
Ce qui m'intéresse, c'est que chaque épisode de l'Odyssée est un épisode qui construit ce que c'est qu'être un homme pour un Grec. Et alors les sirènes, Ulysse est sur son bateau, il se fait attacher à son mât pour ne pas sauter lorsqu'il va entendre le chant des sirènes, et il bouche les oreilles de ses rameurs. Donc, c'est le seul au monde, je crois, à avoir entendu les sirènes sans en mourir. Et qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça ? Elles disent pas grand-chose, hein. Elles disent « Viens ici, Ulysse, t'en vanter, honneur de l'Achaïe, on va te dire tout ce que tu as fait, il le sait ». Donc elle représente d'une certaine manière l'Iliade, chère à Olivier, dans l'Odyssée. Mais ce qu'il y a de magnifique pour moi dans ce passage sur les sirènes, c'est la description d'Ulysse attaché à son mât. Et là, je voudrais dire quelque chose que je crois très peu de gens ont vu. Ulysse attaché à son mât, il est dit « Empédon », les pieds plantés dans le sol. Voilà, bon, bam, ferme. Dans la limite de liens puissants. Ces mots-là, ces mêmes mots sont repris par Parménide, c'est-à-dire celui que, depuis Heidegger, mais bien même avant, depuis Platon, on considère comme le premier A. le premier philosophe a, et le premier a, bon, le premier à philosopher. Ces mots sont pris dans le, ce qui nous a été transmis, le poème de Parménide, sont pris pour décrire l'être. L'être est une sphère. Oh, et cette sphère, elle est empédon, les pieds solidement plantés dans le sol. Non, mais vous rigolez. Eh bien, non, je ne rigole pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est que ce soit les mêmes mots. C'est-à-dire que Ulysse soit le modèle de l'être. Et autrement dit, là, on a un rapport tout à fait profond et beaucoup plus intéressant que ce qu'on dit d'habitude entre le mutos, le mythe, et le logos, c'est-à-dire ce qui donne le discours philosophique.
Donc cette distinction qui est effectivement extrêmement importante, qui va construire la philosophie occidentale jusqu'à Heidegger, puisque à chaque fois il s'agit de raisonner sur le mythos, le mythe, l'imaginaire, la création et le logos, la pensée rationnelle, avec une bipartition qui a tendance à se fissurer de plus en plus.
Oui, oui, mais il suffit de lire pour que ça se fissure absolument. Je veux dire, lisons l'Odyssée, lisons Parménide pour de bon, peut-être pas avec les... C'est étrange parce que Heidegger a fait très très attention à, disons, au tragique, au poète d'une manière générale, mais ça, il l'a absolument pas vu. Et ça, c'est crucial à mon avis. C'est-à-dire que le héros grec, c'est un héros à la fois mythique et logique.
Olivier Rollin. Lorsque l'on évoque cette distinction et lorsqu'on évoque la poésie, le poème des poèmes, c'est censé être l'Odyssée, l'Iliade. Qu'est-ce que vous, vous y avez trouvé ?
Eh bien, oui, comme je l'ai dit, je suis surtout attaché à l'Iliade. L'Iliade qui est bon, il y a un texte de Borges qui dit qui est dans le Lord des Tigres, je crois, qui dit qu'il y a quatre histoires fondamentales et que la première histoire que nous ne cesserons de raconter autant que nous vivrons, dit Borges, de reprendre, de re-raconter, et l'une de ces histoires, c'est la chute. Voilà, la chute d'une ville, la chute annoncée d'une ville dont les défenseurs savent qu'elle va tomber, mais qui ne l'en défendent pas moins.
C'est-à-dire l'histoire de Troie.
L'histoire de Troie.
Et pourquoi Troie est-il pour vous une sorte d'histoire fondatrice ? Expliquez-nous, Olivier Rollin, pour ceux qui connaissent
parce
mal.
Bon, ben, alors, dans l'Iliade, Troie ne tombe pas, on n'assiste pas à la chute de Troie, mais simplement tout le monde sait, y compris donc ses défenseurs. Hector dit, voilà, je sais que le jour viendra où elle va tomber, la Saint-Ilion, etc. Bon, tout le monde le sait, mais on n'assiste pas à cela, ce qui est dramatiquement très fort d'ailleurs. Bon, de la même façon qu'on n'assiste pas à la mort d'Achille, etc. Mais en tout cas, on sait que cette ville va tomber, va être détruite, va être rasée, va être incendiée, voilà, que la race des Troyens, comme dit Agamemnon à un moment, va disparaître. Bon. Et donc je vois là, c'est pas uniquement pour ça que j'aime l'Iliade, bien sûr.
Vous êtes libre de vos goûts
proprement littéraires.
Mais non, disons, je voulais juste qu'on expose ça à ceux qui n'ont pas encore lu l'Iliade ou qui n'en sont pas familiers.
Ce qui est annoncé dans l'Iliade, c'est la fin d'une ville, et je vois là en effet une espèce de prototype, si je puis dire, de toute notre histoire, enfin jusqu'à maintenant, jusqu'à Gaza, jusqu'à Mariupol,
c'est une guerre d'extermination.
Une guerre d'extermination. C'est une guerre d'extermination ethnique. Encore une fois, Agamemnon dit il faut qu'ils meurent tous, jusqu'aux enfants dans le sein de leur mère. Bon, donc c'est une extermination ethnique
d'un côté, on prend l'ensemble de la mythologie grecque, il y a parce que les enfants dans le ventre de leur mère, c'est aussi le crime que commet Ouranos en réintégrant ses enfants dans le ventre de Gaïa, où ils souffrent terriblement, et c'est de là dont naît Zeus, puisque Zeus est un enfant d'Ouranos. C'est une histoire particulièrement cruelle, c'est une série d'histoires particulièrement cruelles, c'est-à-dire que l'histoire de la mythologie grecque et des dieux débute par une castration
oui, c'est
du père, perpétrée par le fils, peut-être la raconter en quelques mots.
Oh, mais c'est tout à fait ça, c'est juste ça. C'est-à-dire que Zeus, qui, au lieu que Cronos avale Zeus avec ses autres,
oui,
comme ses autres enfants.
Cronos a la mauvaise habitude,
oui,
d'avaler ses enfants.
Il avale ses mômes. Bon, au lieu qu'il l'avale, Gaïa, la terre, leur mère, donne une pierre. Bon, donc Zeus en réchappe, et puis qu'est-ce qui se passe? Bah, évidemment.
Oui, parce qu'à la place de Zeus, il y a une pierre, et comme Uranos n'est pas vrai, un fin gourmet, il confond son fils et la pierre.
Voilà, il y a Cronos, Uranos, Gaïa. Bon, tout ça, ça n'arrête pas de se trucider. Les pères n'arrêtent pas de bouffer les enfants tellement ils ont peur qu'ils leur prennent la place. Et puis, bon, bah, finalement, Zeus arrive à naître, et ensuite, la dernière née, c'est Aphrodite avec le sperme répandu sur l'eau. C'est quand même magnifique. Bon, et puis Hésiode continue la généalogie.
Des... Ah bah, pas voilà quand même, parce que c'est une histoire qui débute sur la castration d'un homme, c'est-à-dire que c'est quasiment plus fort que le mythe d'Œdipe.
Bien sûr, et on se demande pourquoi quelqu'un comme Lacan ou quelqu'un comme Freud ne s'est pas vraiment intéressé à ça, parce que c'était quand même ça le plus grave. Mais pour revenir à l'Iliade et à l'Odyssée, il y a quand même, c'est très intéressant qu'il y ait deux poèmes, c'est très intéressant que Olivier préfère l'Iliade ou s'intéresse plus à l'Iliade et que moi je m'intéresse plus à l'Odyssée, parce que lorsque par exemple, à Chaminatour, on nous a demandé « Tu préfères l'Iliade ou l'Odyssée ?» J'ai dit « Tu préfères papa ou maman ?» Bon, c'est exactement ça. Hein. L'Iliade, c'est le poème de la force, Cléos, et la gloire, et l'Odyssée, c'est le poème de la ruse, de la métisse et de la femme.
La métisse des Grecs, c'est particulièrement important, il faut en dire quelques mots sur ce terme.
Oui, j'adore ce mot, parce que c'est peut-être là-dessus que la première fois on voit apparaître le signifiant, c'est-à-dire le son, comme dirigeant, d'une certaine manière, le sens. Et ça, c'est dans l'Odyssée, et c'est dans le rapport entre Ulysse et le Cyclope. Il se trouve que quand Ulysse débarque chez le Cyclope, que le Cyclope bouffe un par un tous les compagnons, enfin, ou les mange l'un après l'autre, il se trouve que Ulysse, quand le Cyclope lui a demandé « Comment tu t'appelles ?», a dit « Je m'appelle Personne, Outis ». Je ne sais pas comment il a eu cette idée géniale. En tout cas, « Je m'appelle Personne, Outis ». Et ensuite, quand tous parviennent à s'échapper, Ulysse dit de loin au Cyclope « Ah ah, c'est ma métisse qui t'a eu. » Métisse, c'est le même mot que outis. Il faut comprendre qu'en grec, il y a deux négations. C'est pour ça que c'est très très intéressant de connaître le grec pour lire, vous voyez. Outis, ça veut dire pas quelqu'un. Métisse, ça veut dire pas quelqu'un. Simplement, il y a deux négations. Il y en a une qui dit pas quelqu'un, c'est un fait, et l'autre qui dit absolument pas quelqu'un, métisse. Et métisse, ça a un autre sens. Ça veut dire la ruse, la pensée. C'est en fait Métis, c'est une petite déesse que Zeus aurait avalée, et elle est sous son tabouret dans certaines images. Voilà.
C'est pour ça quand même, Olivier Rollin, qu'il y a donc une constante. Ce sont des histoires très cruelles où on avale, on castre, on tue. C'est ce qu'on appelle une tragédie grecque.
Oui, oui, mais ce que j'admire dans l'Iliade, justement, c'est pas simplement que c'est le poème de la force, comme dit Simone Veil, et d'autres. Bon, si ça n'était que ça. Alors c'est vrai que c'est un poème extrêmement gore, si j'ose dire. Enfin, de dire, par exemple, les blessures sont décrites avec une précision affreuse. Enfin, bon, la mort est extraordinairement présente. Mais c'est aussi un poème, et c'est surtout même un poème pour moi, enfin, de la mélancolie, quoi. Bon, et d'ailleurs pour moi, mais je suis, on me suivra peut-être pas dans cette voie, mais pour moi, le héros de l'Iliade n'est pas Achille, contrairement à ce que dit Homère lui-même, bon, mais parce qu'Homère veut nous tromper, pour moi c'est Hector, bon, et voilà, qui est un personnage tout à fait étonnant dans l'épopée, Hector.
Ah, moi je pensais que vous alliez nous parler, alors Barbara Cassin, il faut nous parler d'Hélène quand même, parce que...
Non, moi je m'en fiche complètement d'Hélène.
On la voit pas beaucoup, hein, puis oui, lui, il doit s'en ficher.
Non, mais par contre, on la voit juste un peu, oui. On la voit un peu quand même, parce que tout simplement, Sparte est à l'origine,
ben oui,
et le déclencheur de la guerre de Troie. Alors il faut raconter cette histoire, Barbara Cassin.
De la guerre.
Donc c'est quand même pas mal d'être la cause d'une guerre.
Ben oui, c'est magnifique, c'est-à-dire surtout parce qu'on suit son amant. Enfin, je veux dire,
racontez-nous cette histoire, Barbara Cassin.
Eh bien, les Grecs avaient fait un pacte, un peu comme l'OTAN, quoi, pour dire que celui qui épouserait Hélène, la plus belle des femmes, bon, évidemment, il allait avoir des problèmes. Et donc, ils s'étaient mis tous d'accord pour l'aider le jour de ses problèmes. Vous voyez, c'est un pacte genre OTAN. Hein. Et il y a Paris qui arrive, qui débarque. Hélène, elle est très...
Paris, c'est un prince troyen.
C'est un prince troyen.
Très séducteur.
C'est-à-dire un barbare. Hein. Et il la séduit et il l'enlève peut-être, ou alors elle le suit. Bon, elle n'a pas arrêté d'être enlevée. De toute façon, Hélène, vous savez, ça veut dire celle qui prend et celle qui est prise. Donc, bon, ça, c'est, elle est conforme à son concept. Donc, elle le suit. Et il faut la reprendre. Et tous les Grecs se mettent ensemble pour la reprendre. D'où la guerre de Troie.
Et oui, parce que c'est perçu comme l'enlèvement d'une femme, d'Hélène, est perçu comme une insulte à Ménélas, autrement dit au roi.
Aux Grecs en général. Donc, il y a un magnifique texte, et c'est comme ça que je me suis intéressée à Hélène, qui est l'éloge d'Hélène de Gorgias. Donc Gorgias dit, il faut quand même savoir, il arrive en ambassade à Athènes, bon, il vient de Sicile, de Léontinoï, il arrive pour faire la paix. Bon. Et un jour, à telle heure, sur l'Agora, il fait ce que tout le monde fait, c'est-à-dire un discours contre Hélène. Bon, normal. Et le lendemain, même jour, enfin le lendemain, même heure, même lieu, il fait l'éloge d'Hélène.
Ce qui veut dire que Hélène, c'est en quelque sorte toutes les femmes.
Oui, c'est là une femme. Et alors, il y a une scène absolument sublime dans l'Odyssée, qui est rapportée dans l'Odyssée, où on voit Hélène faire le tour du cheval de Troie, le tour de l'embuscade creuse, et appeler chacun des guerriers dont elle sait qu'ils sont dedans. Elle les connaît. Elle les appelle avec la voix de leur femme. Et donc tous, ils veulent sortir parce que elle est là. Ça fait 20 ans qu'ils les ont pas vus, hein, leur femme. Donc c'est Hélène, là, une femme.
Bon, alors vous, Olivier Rollin, vous n'êtes pas Hélène. vous êtes plutôt en faveur d'autres héros. Vous parliez d'Hector.
Oui, je suis je suis touché par c'est un héros tout à fait atypique dans l'épopée Hector. C'est un héros qui est violent, bien sûr, qui est un guerrier.
Bon,
mais c'est un héros qui ne cesse de douter. Et même comme guerrier, d'ailleurs, il perd la plupart des combats singuliers qui l'opposent. Alors à chaque fois jusqu'à la dernière fois, il est protégé par un dieu, par Apollon, etc. Bon, mais finalement, il n'est pas un si grand guerrier que le dit Homère, et puis surtout il doute et il est pour la paix, et il voudrait qu'on rende justement cette fameuse Hélène, et jusqu'au dernier moment quand il décide d'affronter Achille, quand il peut pas faire autrement, il se dit, si je lui proposais donc qu'on fasse la paix, quoi, bon, et puis non, il dit c'est pas possible. Bon, mais en tout cas c'est un homme qui doute, c'est un homme qui a des affections, c'est un homme qui aime sa femme, qui aime Andromaque, qui aime... Bon, il y a la scène archi connue de l'enfant Astyanax qui a peur du cimier, du casque de son père, etc. Bon, donc c'est un homme plein de c'est un héros romanesque, je dirais, presque. Enfin, c'est le début d'un héros romanesque plutôt qu'un personnage épique comme Achille et les autres.
Bon, il faut conclure parce que même Ulysse réussit à revenir à Ithaque et à revoir Pénélope. Peut-être qu'on pourrait finir sur Nausicaa.
Ah, Nausicaa, si vous voulez. Je disais que avec la scène du cyclope, on entendait le signifiant. Eh bien, avec la scène de Nausicaa, on entend le performatif, c'est-à-dire la manière dont qu'en dire, c'est faire. Hein. Voilà, Ulysse qui a échoué moche, enfin il n'en peut plus, il est horrible, il est passé je ne sais pas combien de temps dans la mer, etc. Et tout d'un coup il est réveillé par un ballon qui lui tombe sur le coin de la figure. Et il voit devant lui des belles jeunes filles, bon, qui s'enfuient quand il se dresse, puisque c'est un type tout nu, atroce. Bon. Et donc il y en a une qui résiste, qui regarde, qui est là face à lui, c'est Nausicaa, la princesse. Et à ce moment-là, ben, il faut faire quelque chose. Et Nausicaa n'a pas peur, mais Ulysse se dit que s'il fait ce que font d'habitude les suppliants, c'est-à-dire s'il la prend au genou, s'il touche cette jeune fille au genou, elle va avoir peur. Donc il invente un discours qui gagne. C'est ça, un kerdaleon mutos, plein de gains, et il lui dit « Je te genouille, car j'ai trop peur de te prendre les genoux ». Donc il invente le performatif.
C'est encore une illustration de la métisse, de la ruse des Grecs. Merci beaucoup, Barbara Cassin, de nous avoir accompagnés. L'Odyssée au Louvre, un roman graphique, c'est une coédition Flammarion-Le Louvre. Merci beaucoup, Olivier Rollin. Vers les îles éparses, aux éditions Verdier, c'est dans la collection jaune. Dans quelques instants, le 8h45, le journal d'Anne-Laure Chouin, mes camarades Thomas Baumgartner et Lucille Comeau.